imaginaire, collectif et solidaire, s'est créé lors de la pandémie. Il a émergé pour lutter contre les injustices sociales accentuées durant la crise sanitaire. Des initiatives d'entraide ont vu le jour et donné consistance à des modes d'auto-organisation. You Are Here souhaite rendre audibles les récits des habitantes invisibilisées de Bruxelles et cartographier ces gestes de résistance qui modèlent une société du prendre soin.
On est en plein ramadan, donc les mamans cuisinent chacune chez elles. Et ce sont des jeunes qui parfois prennent notre local d'en bas pour mettre dans des bacs individuels pour distribuer à la mosquée pour ceux qui ne savent pas.
Alors, voilà, le cœur de ce quartier, c'est cette place Les Mens qui n'a pas une très bonne réputation.
Bonjour.
Bonjour. Donc, cette place, je l'ai connue, elle n'était même pas pavée, c'était de la terre et compagnie, mais il y avait ce côté village. D'un côté, il y avait les dames qui étaient assises, les mamans, les enfants qui jouaient au milieu et les hommes de l'autre côté. Donc, ça faisait vraiment village où on se rassemble avant d'attendre le repas ou compagnie.
Bonjour Elias. Moi je m'appelle Fabienne. Je ne suis même pas de Bruxelles, je suis de la région de Charleroi. J'ai débarqué ici juste après mes humanités. Donc j'étais Todjane et Belle, comme je dis toujours. Et la Rosée, c'est une des premières écoles de devoirs de Bruxelles. Elle existe depuis 35 ans. Et ça fait 35 ans que j'y suis. C'est une des premières associations de Kuregem qui est située juste à côté de la place Les Mens.
Alors ici, on passe devant la crèche, donc l'arbre à papillons, où on voit une belle mosaïque qui a été faite par les enfants de la Rosée. Ce projet, il a mis 15 ans pour aboutir. Coucou. Et on a toujours tenu bon et on a toujours, ce qui est génial, trouvé des forces même à l'extérieur pour venir nous aider à réfléchir. Et ça, c'est génial. Et maintenant, c'est une crèche qui fonctionne hyper bien. On n'a pas encore réussi à avoir une crèche où les mamans ou les papas pourraient venir déposer leurs enfants pour 2 heures pour souffler. Ça, c'est très difficile parce que administrativement, c'est impossible dans des quartiers comme ça, puisque toutes les places sont prises et que ça rapporte des sous. Donc c'est toujours rentabilisé au détriment de l'humain.
C'est un quartier qui est un des quartiers les plus précarisés de Bruxelles. Il y a beaucoup de nationalités. Moi, j'ai connu encore qu'on l'appelait le quartier latin parce que c'était les Espagnols et les Italiens qui étaient en nombre. Puis sont venus les Marocains. Et maintenant, on a quand même pas mal d'Afrique noire et aussi de Syriens. Donc, on vit pleinement l'histoire de l'immigration de la Belgique dans ce quartier. Bon, il y a parfois des frictions, mais je trouve que dans l'ensemble, ça se passe très bien.
Mais avec ce confinement, il n'y a même pas eu de fête de quartier, parce que les autres années, il y a une fête de quartier, il y a la rupture du jeûne qu'on fait sur la place Les Mens ou dans un parc, et où tout le monde, plusieurs personnes viennent, et c'est l'occasion de se rencontrer, parce que qu'on le veuille ou non, la convivialité, c'est le lien, c'est le ciment de la cohésion. Moi, je sais que quand il y a quelqu'un qui est dans la dèche, il y a directement des choses qui se mettent en place.
Ha 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 ha!
Le vent est au moins du 90, on n'arrive pas à aller contre. Donc il y a des choses qui, entre eux, ils sont solidaires, ils trouvent des vêtements, ils trouvent de la nourriture et compagnie. Quand on a eu un souci à la Rosée, donc, et qu'on a dû faire une interpellation politique parce qu'on risquait de fermer compagnie il y a 4-5 ans, j'ai été étonnée de l'élan de solidarité. J'ai eu 80 parents qui sont venus à cette commune, donc ils étaient là, alors que je ne m'y attendais absolument pas. C'est là où je te dis que les gens sont solidaires entre eux, parce que il y a ce, même si on a des difficultés, il y a ce lien de vouloir aider l'autre. Et ça, c'est important.
C'est une dame qui déménage avec ses 3 enfants le 4 mai, le jour où on peut commencer à déménager. Elle va à la commune pour s'inscrire, commune fermée. Bon, elle essaye tant bien que mal, elle retourne plusieurs fois. Elle voit un site internet, sa fille qui est une ado, regarde comment sur le site internet s'inscrire, elle comprend pas trop bien. La dame est au CPS, elle contacte son assistante sociale. Son assistante sociale lui dit « Ah non, je peux pas faire de visite, je suis en confinement, donc voilà. » Et puis au mois de octobre, ses allocations familiales sont coupées. Ce qui se passe, c'est que comme elle était radiée puisqu'elle avait déménagé, qu'une autre personne avait pris son appartement, elle n'était plus inscrite, donc elle vient chez moi, elle dit « J'arrive pas à m'inscrire. » Je regarde, on était fin octobre, j'essaie en novembre, je clique sur tous les jours, ça ne marche pas. Les rendez-vous étaient pris, mais il n'y avait rien qui t'indiquait que c'était pris. Il faut vraiment avoir l'habitude d'utiliser cet outil-là. Donc, elle a perdu 2 mois d'allocation familiale. 2 mois pour des familles précarisées, c'est énorme. Je ne te vois plus, toi qui viens. Demain, c'est mercredi après-midi, à 2h. Voilà, ce sont des familles très isolées, donc parfois les enfants ne viennent plus. Le fait d'aller voir, de leur téléphoner. Enfin, téléphoner, c'est très difficile parce qu'en général, les mamans ne parlent pas notre langue. Mais qu'ils sachent mettre un visage sur une personne. Et du coup, ben, l'enfant va revenir parce que c'est important qu'ils ne restent pas dans leur solitude. Et on a eu des gens qui devaient avoir pour leurs papiers, leur carte médicale urgente. Mes collègues envoyaient des mails, il n'y avait jamais de réponse. Donc il y a eu vraiment, vraiment une catastrophe au niveau des services sociaux. Et je ne parle pas non plus des syndicats, je ne parle pas non plus d'Actéris. Donc il y a vraiment les gens qui avaient l'habitude de travailler par numérique qui s'en sont sortis. La fracture numérique, elle s'est encore accentuée. Les pauvretés se sont accentuées. Le gouvernement et les pouvoirs politiques, ils font « Ah, on ne pensait pas que ça allait être autant. » Mais qu'ils ouvrent leurs yeux. Nous, ça fait des années qu'on mettait l'alarme par rapport à ça.
Alors, nous arrivons vers ce parc de la Rosée qui, malheureusement, a été fermé pendant le confinement. Ce parc, il est très chouette parce que c'est beaucoup de monde qui s'y rencontre. C'est un poumon d'oxygène. Il y a ici, à la plaine de Liverpool, et c'est tout. Et maintenant, il y a devant les arts et métiers, un grand parc qui est en train de se mettre en place. Et voilà, donc c'est des endroits où ils peuvent venir. Parce que la plupart des gens ici n'ont pas de jardin. Donc c'est important de pouvoir se défouler à l'extérieur. Et pas sur les trottoirs. Et alors, t'as pas l'école, toi ? Je ne t'ai vu qu'une fois la semaine passée à l'école de devoirs, monsieur. Hein ? Il faudrait que tu reviennes, mon grand.
Aujourd'hui, je viens.
Ça va.
La Rosée dépend de la Société de Saint-Vincent de Paul, dont la maison mère est à Scarbeck. Et dans le temps, le service social inscrivait les gens qui en avaient besoin pour des colis alimentaires qu'ils allaient chercher à Scarbeck. Donc si je reprends l'historique de cette année, On a d'abord fermé parce que voilà, tout le monde devait être en confinement, tout le monde devait se terrer chez eux. Au bout de 3 jours, nous, on a remarqué que le personnel qui était à l'avenue Giraud, donc notre maison mère et qui faisait la distribution alimentaire, ben, ne savait pas subvenir à la distribution parce que les personnes âgées de plus de 65 ans ne pouvaient pas venir distribuer. Donc moi, je me suis dit, au lieu de rester chez moi, puis j'avais fait mon ménage en 3 jours, donc j'en avais marre aussi. Je suis allée donc faire la distribution et on a remarqué que personne de chez nous venait à Scarbec. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de prendre les transports en commun, parce qu'on n'arrêtait pas de leur dire qu'ils allaient avoir le Covid, qu'ils allaient avoir des amendes. Donc, on s'est dit, on va faire la distribution chez nous. Donc, au mois d'avril, on a commencé la distribution pour les gens. Et on a remarqué que de 45 colis, on est monté à 135, parce que tu avais plein de gens qui étaient dans la dèche, qui faisaient du petit travail d'intérim, du travail en black, enfin voilà, qui se débrouillaient déjà dans la vie dite normale, mais que là, ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus rien pour nourrir leur famille.
Bonjour le chien. Bonjour, comment ça va ?
Bonjour.
Il y a du staff dedans.
Sa maman était croisée américaine, Billy Rottweiler, et son papa est un américain.
Ouais, ouais, tu connais la gueule.
Il y a 3. Il y a la tête du staff, mais il reste plus.
Ouais, ouais.
Non, les enfants, pas.
On ne crie pas. Mais oui, mais tu sais que quand je promène mon chien.
Voilà. Attention, attention, tu cours.
Il crie tellement que la fois passée, j'avais mon chien et je vois un gosse. Il va sur la rue pour éviter mon chien. Conclusion, maintenant, quand je vois un gosse, je vais sur la rue avec mon chien.
Bonne journée.
Oui.
Puis d'autres collègues, ben, ils ont été distribués de la soupe, parce que donc, mon collègue David, lui, il est de la campagne, donc il récoltait avec des amis des légumes, il faisait de la soupe pour aller donner aux sans-abri.
Alors, ce parc, il a été conçu parce que la Seine donc, a plein de bras dans le quartier. D'ailleurs, il y a le musée des égouts qui est à la porte d'Anderlecht. Il a été considéré comme le serpent de la Seine. Et on voit une statue avec une main qui a une tête de serpent. Et tous les murs, c'est comme si le serpent ressortait à d'autres endroits et revienne. Et chaque endroit a été créé par des artistes. Ou des collectifs d'artistes pour agrémenter ce parc. Comme on voit pour l'instant, ben, y a des écoles qui viennent faire la gym ici, parce que les écoles ne sont pas toujours bien loties non plus. C'est pas évident non plus pour ces profs de travailler dans des conditions aussi néfastes. Donc voilà, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite. Parce que même s'il y a des dysfonctionnements, la plupart, ils mettent leur cœur. Et ça, voilà, ça n'a pas de prix, c'est une immense richesse.
Mais on a quand même eu vite des gens qui sont revenus une fois le mois de mai. Et nous avons été vite à l'extérieur. Le seul truc, c'était, je sais compter jusque 10, jusque 20 et jusque 50, puisque nous avons dû faire ces bulles-là. À tour de bras, une semaine, c'était 20. Puis on nous disait qu'on pouvait être jusqu'à 50. Donc on a jonglé là-dessus. On a engagé pas mal d'étudiants, parce qu'en plus, eux étaient sur la touche aussi. Mais ce qui nous permettait de travailler aussi avec des groupes réduits. Parce que quand on prenait le tram, par exemple, les gens avaient peur si on montait dans un grand groupe. Tous nos groupes étaient dispatchés à différents endroits. Donc, un groupe allait à un endroit A un jour, puis il allait à l'endroit B, tant que l'autre allait à l'endroit A. On a fait plein de choses magnifiques.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe vers le jardin collectif. Et donc, ce jardin collectif, c'est un passage, si tu veux. D'ailleurs, il y a la Seine qui passe en dessous. Et c'est une jeune ASBL, à l'Emtrée d'Union, qui l'a repris donc, pour la gestion, et qui réserve des bacs pour que les gens viennent planter leurs légumes et compagnie. Ils ont des poules. Il y a une vie qui se passe dans ce quartier.
On a quand même donné des cours à des enfants qui étaient en 6e primaire et que par WhatsApp, c'était impossible de leur expliquer. Mais là aussi, j'ai eu des visions d'horreur. Des enfants qui étaient sous des toits, entassés dans une chaleur pas possible et qu'ils partageaient la table de cuisine pour faire leurs devoirs avec le petit frère maternel qui faisait « Hello Fabienne, ça va ?» Donc aucune concentration. Donc très vite, avec des bénévoles et un autre collègue, on est allé les chercher chez eux et on venait les donner dans nos immenses locaux individuellement des cours pour qu'ils puissent ne pas lâcher leur matière parce que c'était impossible de faire autrement.
Et est-ce que ça s'adresse à toutes les populations du quartier ?
C'est-à-dire ?
Souvent, dans certains quartiers, il y a des potagers qui vont plutôt attirer une classe moyenne.
Non, ici, ce sont les habitants tout venant. Il n'y a peut-être pas, parce que si tu regardes les maisons ici, ce sont tous des maisons qui ont été rachetées par des associations d'architectes néerlandophones et qui ont investi le quartier et compagnie. Je ne pense pas qu'eux, par exemple, ils ont leur bac ici. Ils ont leur terrasse où ils peuvent planter leurs légumes et compagnie. Et au bout de la rue de la Bougie, ce sont des lofts, donc dans les anciennes usines et compagnie. Mais on n'a pas de contact avec eux. Ils ne viennent pas faire leurs courses dans les magasins du quartier. Ils prennent leur voiture et vont autre part. Donc ces deux populations, celle-là est quand même moins nombreuse, hein, qui vivent en parallèle mais qui ne vivent pas ensemble.
Il y a une autre association qui a un jardin et elle nous a téléphoné et il y a des familles qui ont pu prendre rendez-vous pour aller un peu respirer dans ce jardin. Parce qu'il faut savoir que le parc ici de la Rosée a été fermé pendant tout le premier confinement parce qu'il n'y avait pas moyen de garder les distances. Il y a toujours moyen de faire des choses.
Donc ici, on est vraiment à la limite Anderlecht-Molenbeek. Le commissariat est sur Molenbeek. Et ici, peut-être plus maintenant avec le confinement, tu avais plein de gens qui vendaient par terre. Et que quand la police venait, ils ramassaient tout et compagnie.
Puis quand on a pu rouvrir, mais tout en extérieur, bon, on a eu la météo, hein. On a eu la chance. On faisait vite les écoles de devoirs, donc bien séparées dans tous les locaux inimaginables. Je raconte encore aussi une anecdote. On a un dimanche matin l'assistante sociale d'une des écoles qui me sonne. Je me dis, oh là là, si elle me sonne un dimanche matin, c'est que c'est pas bon signe. Il y avait une classe qui avait fermé donc le vendredi parce qu'il y avait eu un cas Covid. Donc tous les enfants avaient dû se faire tester. Et le samedi, il y en avait un des condisciples qui avait été testé positif. Et il était venu à la Rosée. Donc toute la bulle de cet enfant devait être prévenu et devait aller se faire tester. Donc évidemment, on vient le dimanche matin, je réveille mon collègue Ilias pour qu'il explique aux familles en arabe que ce n'est pas grave, que ce n'est rien qu'un contrôle. Il fait venir même certaines familles ici pour prendre le rendez-vous par Internet, parce que ce n'est pas évident. Et puis il y a des familles qui sont passées par leur médecin, ce qui est bien. Donc normalement, on ne devait pas les avoir pendant 7 jours, puisqu'il y avait un deuxième test qui devait être fait. Eh bien, le vendredi, on voit un gamin qui arrive avec son cartable. On lui dit, mais petit chou, tu peux pas venir. Tu dois être en écartement. Il dit, non, j'ai fait mon test. Le médecin m'a dit qu'il était négatif, donc je dois y aller. Donc, même les médecins n'étaient pas au clair avec eux-mêmes. On fait quoi ? Ben, on lui a dit, écoute, tu viens, tu te mets 1m50, on désinfectera tout convenablement et on ouvre bien les fenêtres. Voilà, nous, on doit trouver la parade à quelque chose d'illogique. Et les parents, c'est la même chose, parce qu'ils entendent un médecin qui dit une chose, les directives de l'école ne sont pas les mêmes que les directives qu'on a dans nos maisons. Enfin voilà, cette incohérence est lourde à porter.
On va essayer d'aller voir cette plaine de Liverpool, qui est aussi tout un... Alors, ici, nous sommes à l'arrière de ce qu'était l'usine d'Iteren des voitures qui vendaient. Souvent, quand je viens à 5 heures pour prendre un peu d'espace avec les enfants à l'extérieur, il y a des familles qui sont assises par terre avec leurs gosses et compagnie. Et puis, il y a des animateurs qui y sont. Et quelque part, d'avoir une présence humaine, c'est important. C'est important. Ils ont un chouette contact avec la population. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, mais bon, voilà, c'est pas évident. C'est quand même glacial.
Ouais.
Oui.
on allait à l'extérieur parce qu'il fallait que ses enfants bougent. Ils sont restés 2 mois dans leur fauteuil, derrière leurs écrans, parce que les parents n'osaient pas sortir. Il faut savoir que la police, ici, à Anderlecht, était vraiment violente avec les jeunes. C'est-à-dire que j'ai eu des parents qui étaient avec leurs enfants de 12 ans ou de 10 ans, qui venaient chercher des colis alimentaires, la police venait leur dire « qu'est-ce que vous venez faire ?» Ils devaient se justifier. Il y a eu une montée de contrôle, mais inadmissible.
Moi, j'ai quelqu'un qui est sorti de prison, donc un adulte, et il vient de temps en temps nous aider pour passer son temps. Et un jour, il était à la rosée dans mon bureau, il devait téléphoner à son responsable policier. Et il vient téléphoner de la rosée parce qu'il n'a pas de sous pour charger son GSM. Donc il devait téléphoner parce qu'ils étaient passés chez lui. Et on va se mettre là quand on est à la prison. Donc il dit qu'il téléphone de la rosée, c'est pour ça qu'il y a ce numéro-là. Et le gars, le policier, me demande de me parler. Et il me dit, voilà, vous êtes qui ? Ben, je suis Fabienne de la Rosée. Il me dit, ah, je ne connais pas. Je lui dis, mais c'est que vous ne connaissez pas le quartier, parce que la Rosée, il y a beaucoup de monde qui la connaît. Et il me demande, il y avait eu des barbecues, je ne sais pas quoi, du week-end ou quoi, et avec le confinement, on n'avait pas le droit ou quoi, sur cette place Neyman. Et il me demande si je ne connaissais pas les noms de ceux qui organisaient ça. Je l'ai regardé, je dis, c'est pas mon boulot. Il dit, oui, mais vous ne vous rendez pas compte, il y a des jeunes qui ne respectent pas, et des plus grands qui... Je dis, mais c'est pas mon boulot, quoi. Je trouvais ça, mais tout à fait déplacé, quoi. Et je lui dis, monsieur, je n'ai plus rien à vous dire, je dois travailler. Et alors je lui ai même dit, si un jour j'ai un problème pour expliquer une règle de 3 avec un gosse, vous allez venir.
Adil est un jeune, je ne sais plus, de 16, 17, moins de 20 ans, qui réparait sa mobylette. Et c'est vrai qu'il est sorti promener pour essayer de voir sa mobylette. Et les flics ont estimé qu'il enfreignait les lois, ce qui est vrai, puisque normalement on devait rester chez soi. Et les flics, donc il y en a un qui poursuivait, une autre voiture qui est venue en sens inverse, et qui, pour l'arrêter, a déboîté. Et lui a foncé sur la voiture et il en est mort. Voilà. C'est injuste. C'est un enfant du quartier. Et à part les journaux néerlandophones qui ont essayé d'être le plus neutre, les journaux francophones, ça a toujours été les mauvais jeunes de Kureghem contre les bons flics d'Anderlecht qui n'en peuvent plus. Et là, je vais dire... Il est vrai que certains policiers n'en peuvent peut-être plus, mais eux sont des adultes, ont un travail, eux ont des missions, donc eux doivent garder la tête froide. Parce que nous aussi, on a parfois des enfants plus turbulents, plus difficiles. Ce n'est pas pour ça qu'on les passe par la fenêtre.
On voit quand même beaucoup de messages. Adil, 1 an, parce qu'il était tué le 10 du 4. Pas de justice, pas de paix. Donc voilà. Est-ce qu'ils peuvent l'entendre ? Je n'en sais rien. Mais je trouve que c'est logique qu'ils ont cette frustration de cette injustice. Et puis, il n'y a pas longtemps, maintenant, je ne sais plus son prénom, mais il y a encore un gars de 20 ans qui est mort dans un commissariat il y a 6 mois. C'est le frère de nos gosses, quoi.
Nous sommes tous, ça je peux l'assurer, sur les genoux. Parce que, comme tout un chacun de ce pays... La crise sanitaire nous est tombée dessus. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens de notre quartier ont ressenti cette crise encore plus profondément. C'est-à-dire que la pauvreté s'est accentuée, les stress se sont accentués et les gens sont aussi déroutés par toutes ces mesures qui n'ont ni queue ni tête pour nous. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que je pense que même si on revient à une vie normale, qu'est-ce qu'une vie normale ? Il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui vont avoir un mal-être. Et ce mal-être, je ne sais pas comment ils vont le combler. Et puis, il y a des gens qui ont fait des dettes. Il y a des gens qui ont perdu des personnes. Je ne peux pas imaginer comment va la crise après Covid. C'est une politique de grand P qu'il faut, avec un grand P qu'il faut appliquer. Ça fait des années que je dis que l'école de devoirs, c'est bien, mais c'est un sparadrap sur une jambe de bois. Il faut de fond en comble changer cet enseignement. Il faut des classes plus petites, pouvoir sortir plus. Il faut des personnes qui ont d'autres potentialités, par exemple du théâtre, de la musique et compagnie, qui rentrent dans les classes. L'artistique apporte aux enfants la possibilité de développer leur créativité. Et quand tu développes les créativités, quand tu es dans la vie adulte, tu as déjà un état d'esprit pour dépasser les problèmes. Au moment que les professeurs, il y avait des absences et compagnie, il y avait tout le volet du spectacle qui était à l'arrêt. Pourquoi ne pas engager des professeurs de théâtre, des profs de chant pour venir faire des cours, quoi? Je suis sûre et certaine qu'il y aurait pu avoir ça. Mais non, pas faire rentrer dans les écoles le Covid. Mais oui, on en voit où on en est. On a des professionnels qui sont vraiment à bout de souffle, des enfants qui n'ont pas eu le pouvoir de s'exprimer clairement, et le Covid, je ne suis pas sûre qu'il ne s'est pas propagé comme il avait envie de le faire. Hein. Donc voilà.